Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Amis auditeurs, bonjour et bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. En ce lundi 17 mai 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique. Des dizaines de missiles et roquettes tirées sur Tel Aviv. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, poursuite des frappes meurtrières israéliennes sur Gaza. Premier débat public du Conseil de sécurité de l'ONU sur les violences israéliennes n'a abouti à rien. La Chine fustige l'obstruction américaine. Et puis la rencontre entre Zarif et le pape François en Italie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ciel de Gaza s'est rempli de fumée alors qu'Israël cible à nouveau le territoire palestinien sous blocus en utilisant ses bombardiers et ses unités d'artillerie. Lors de la dernière attaque, un bâtiment du gouvernement palestinien et une usine ont été visés. Les avions de combat israéliens ont également tiré des dizaines de missiles pendant la nuit sur différentes parties du territoire palestinien, densément peuplé, faisant de nouvelles pertes en vie humaine et matérielle. Plus de 200 Gazaouis, dont 58 enfants et 34 femmes, ont été tués depuis qu'Israël a commencé à pilonner Gaza lundi dernier. 42 Palestiniens ont été tués rien qu'au dimanche, le pire bilan quotidien à ce jour. Le chef de l'ONU a qualifié l'escalade d'extra-épouvantable. Amnesty International a exhorté la Cour pénale internationale à enquêter sur les attaques israéliennes sur un bâtiment de médias et des tours résidentielles ainsi qu'un camp de réfugiés à Gaza, le qualifiant de crime de guerre. Des groupes de résistance palestiniens ont lancé des attaques à la roquette contre Israël en représailles à ces incessants raids sur la bande de Gaza. Le mouvement du djihad islamique de la Palestine affirme que sa branche militaire, la brigade de Rots, a tiré des salves de roquettes sur les villes de Sderot et Netivot. Selon le groupe, les tirs étaient une réponse au bombardement massif dimanche contre Gaza par Israël. La brigade Qassam, la branche armée du Hamas, ont également déclaré avoir ciblé Ashkelon avec un barrage de projectiles. L'armée israélienne affirme que les combattants de la résistance à Gaza ont tiré quelque 3000 roquettes vers Israël depuis lundi dernier. Les attaques de représailles ont jusqu'à présent fait 10 morts côté israélien et des centaines de blessés. Les troupes israéliennes ont de nouveau attaqué des manifestants palestiniens dans deux quartiers de Rots occupés. Au cours de la violente répression, au moins 12 Palestiniens ont été blessés dans les districts de Sheikh Jarrah et Shoafat al-Rots. Des attaques similaires ont été menées contre les Palestiniens à Bethléem. Plus tôt dimanche, Sheikh Jarrah a été le théâtre de manifestations où les forces du régime ont attaqué et arrêté des manifestants et des résidents palestiniens. Parallèlement aux manifestations, le quartier d'Al-Quds de Rotsest a également été le théâtre d'une attaque à la voiture bélier au cours de laquelle 7 officiers du régime ont été blessés. Les tensions sont vives dans la région à propos de l'expulsion annoncée de plusieurs familles palestiniennes pour faire place aux colons israéliens. Le premier débat public du Conseil de sécurité de l'ONU sur les tensions entre Israël et la Palestine n'a abouti à aucun résultat permettant de résoudre la crise. Le Conseil de 15 membres a tenu dimanche une réunion virtuelle sur la situation en Palestine à la demande de la Chine, de la Norvège et de la Tunisie. Le Conseil s'est réuni en privé à 2 reprises la semaine dernière sur l'escalade des violences dans les territoires occupés, mais n'a pas réussi à s'entendre sur une déclaration commune en raison de l'obstruction américaine. La 3e session a été présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a vivement critiqué Washington pour avoir fait obstruction à une voix unanime sur la question. Le président iranien Hassan Rouhani, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a qualifié la cause palestinienne de problème le plus important et de préoccupation principale de la communauté islamique. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, le président de la République islamique d'Iran a également souligné qu'il est essentiel de dénoncer ces crimes contre la Palestine et d'arrêter immédiatement les attaques brutales du régime sioniste contre le peuple palestinien opprimé et sans défense. Les pays islamiques doivent coopérer entre eux et tirer parti des capacités des organisations internationales telles que les Nations Unies ou l'Organisation pour la coopération islamique OCI pour dénoncer l'agression sioniste, a ajouté le chef du gouvernement iranien. Hassan Rouhani a également appelé à resserrer les positions et à renforcer la coopération Téhéran-Ankara pour résoudre les crises régionales telles que les conflits en Syrie et au Yémen. Sachez également que lors d'une réunion virtuelle avec les ministres des Affaires étrangères des pays islamiques, Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, souligne la nécessité de créer une campagne mondiale contre le régime sioniste. Nous devons former une campagne juridiquement et politiquement institutionnalisée contre le régime d'apartheid sioniste au niveau régional et international, a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères. Lors d'une réunion virtuelle d'urgence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, Mohammad Javad Zarif a déclaré « Il ne faut pas oublier que la Palestine n'est pas seulement une cause arabe ou islamique, mais aussi une question internationale. Les crimes commis contre le peuple innocent de la Palestine au cours des dernières décennies pèsent sur la conscience humaine. C'est pourquoi la communauté internationale a le devoir de condamner fermement le régime sioniste et de le forcer à mettre fin au blocus de Gaza. Le régime sioniste ne comprend que le langage de la résistance et le peuple palestinien a le droit de se défendre et de contester le harcèlement de ce régime raciste, a martelé encore le ministre iranien des Affaires étrangères. Des hommes, des femmes et des enfants innocents sont massacrés avec les armes les plus meurtrières et les plus sophistiquées. Les bâtiments sont démolis tandis que leurs habitants sont piégés à l'intérieur. Les infrastructures de l'approvisionnement en électricité et en eau sont complètement détruites à Gaza, déplore encore Javad Zarif. Le très haut diplomate iranien a également appelé à la mise en place d'une structure de surveillance internationale pour surveiller et signaler les crimes commis contre les Palestiniens afin de traduire les coupables en justice. En critiquant le mutisme du Conseil de sécurité face aux crimes du régime sioniste à Gaza, le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a considéré la défense contre l'agression sioniste en tant que droit légitime des Palestiniens. Lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la question palestinienne, Majid Tartravanchi a déclaré, je cite, « Simultanément à cette réunion, les forces sauvages du régime sioniste sont en train de commettre un véritable génocide en Palestine, notamment dans la bande de Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert du monde, où les sionistes ont massacré jusqu'à présent 192 personnes, dont 58 enfants et 34 femmes. » Le représentant iranien poursuivit, Il tue lâchement des femmes sans défense, il tue brutalement des nourrissons et des enfants, il tue barbarement des familles ensemble, ils insultent sans vergogne les lieux saints et bombardent lâchement les zones résidentielles, les écoles et les établissements sanitaires. Ils détruisent follement des maisons et en un mot, commettent simultanément tous les quatre grands crimes internationaux. Sachez également que des manifestations de solidarité pro-palestinienne se poursuivent dans le monde. Des milliers de Yéménites sont descendus dans la rue pour manifester leur solidarité avec les Palestiniens face aux frappes meurtrières israéliennes. Dans la ville de Saada, au nord-ouest du pays, les manifestants ont scandé des slogans pour condamner les attaques meurtrières israéliennes contre la bande de Gaza sous blocus. Ils ont également exprimé leur soutien indéfectible à la cause palestinienne. Les manifestants ont exhorté la population de Gaza à poursuivre sa résistance contre la question israélienne. D'autres rassemblements similaires sont prévus dans la capitale Sanaa. Dans un communiqué, le mouvement populaire d'Ansarallah du Yémen a déclaré que la réponse des combattants palestiniens mit au grand jour la fragilité et la faiblesse d'Israël. Autre thème dans l'actualité iranienne, Téhéran exclut toute idée d'accord préliminaire dans les pourparlers de Vienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que l'Iran et les autres parties à l'accord historique poursuivraient leurs négociations techniques. Le diplomate a déclaré que la République islamique ne cherchait pas un accord qui ne soit pas conforme à ses politiques et principes exécutifs. Khatibzadeh a noté que l'Iran ne donnera aucun accès au-delà de l'accord de garantie à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Téhéran a répété à maintes reprises que Washington devait faire le premier pas vers la relance de l'accord sur le nucléaire en supprimant inconditionnellement toutes les sanctions d'une manière vérifiable. Les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien unilatéralement en 2018 avant de rétablir les sanctions contre l'Iran. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Des dizaines de missiles et roquettes tirées sur Tel Aviv. L'expert militaire israélien Amos Harel a publié un article dans le journal Haaretz dans lequel, citant des sources de haut niveau de l'agence de sécurité de Tel Aviv, il a écrit que l'attaque à la roquette sans précédent contre la région du Gush Dan et les frappes aériennes à grande échelle dans la bande de Gaza ont amené Israël et la Palestine au bord de la guerre. Selon Rayal Yaoum, cet expert sioniste a souligné que les colons israéliens, à travers la Palestine occupée, n'avaient jamais vécu une chose pareille. Les sirènes d'alarme et les attaques à la roquette se poursuivaient pendant une heure. Cela devrait faire pression sur les responsables israéliens. S'il y avait déjà de l'espoir pour le succès de la médiation des acteurs internationaux, pour pouvoir orienter les choses vers le cessez-le-feu, ces espoirs ont maintenant considérablement diminué et il semble que nous soyons plus proches que jamais de la guerre depuis la fin de l'opération Bordure protectrice à l'été 2014, a précisé Amos Harel. En outre, ces derniers jours, Israël a commis de nombreuses erreurs dans le calcul des objectifs et de la capacité opérationnelle des Palestiniens, ajouta Haaretz. Selon l'expert sioniste, le principal changement qui a eu lieu récemment par rapport au conflit précédent est la décision de la résistance palestinienne de reprendre le combat pour la libération de Rhodes. Et cette approche était évidente dans l'attaque au missile d'envergure contre Rhodes. Suite à l'intensification des attaques à la roquette de la résistance palestinienne contre les positions du régime sioniste dans les territoires occupés, Les médias sionistes ont rapporté que les missiles des Palestiniens tirés sur toutes les villes et colonies israéliennes, y compris Tel Aviv, avaient brisé toutes les cartes et exposé Israël à une guerre à grande échelle. Des dizaines de missiles ont été tirés sur Tel Aviv en réponse au massacre d'enfants, de femmes et de civils palestiniens dans le camp d'Al-Shati, a annoncé la branche militaire du Hamas sur sa chaîne Telegram. D'autre part, les médias sionistes ont rapporté qu'au moins 30 missiles avaient été lancés sur et aux alentours de Tel Aviv, et certaines sources ont dit que des sirènes ont retenti dans la ville. La chaîne d'information Al Jazeera a également écrit dans un flash info qu'après le succès de l'opération de la résistance palestinienne contre le centre et le sud de Tel Aviv, l'artillerie israélienne avait ciblé certaines zones de la bande de Gaza. Selon ce rapport, l'armée israélienne a demandé aux habitants de Tel Aviv de se rendre dans les abris et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Selon une autre dépêche, les groupes de résistance palestiniens à Gaza ont tiré ce samedi matin des dizaines de roquettes et de missiles en direction des colonies sionistes aux environs de Gaza, dont Birishba, Ashdod, Kisofim et Ashkelon. La chaîne Al-Mayadin a rapporté que l'un des missiles a touché une zone industrielle et un entrepôt contenant des matériaux inflammables, provoquant un incendie de grande ampleur. Plusieurs personnes ont également été blessées dans l'incendie. L'armée du régime sioniste a également posté une vidéo de cet incendie sur son compte Twitter, affirmant que l'incendie était très effrayant, sans en mentionner le lieu. La radio de l'armée sioniste a rapporté que des sirènes avaient retenti à plusieurs reprises aux premières heures de ce samedi matin dans les colonies sionistes et qu'une roquette avait touché un bâtiment à Birsheba, blessant plusieurs personnes. Al Jazeera a également écrit que ces attaques d'envergure étaient intervenues en réponse au bombardement d'une maison d'habitation dans le camp palestinien d'Al-Shati à l'ouest de Gaza, qui a tué 10 habitants, dont 2 femmes et 8 enfants.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La résistance palestinienne a changé totalement la donne en sa faveur dans cette en fait bataille décisive contre le régime israélien. La résistance palestinienne qui a riposté aux agressions de l'armée israélienne et également à l'oppression dont, à la répression dont font l'objet les habitants de la ville d'Al-Quds, les habitants en fait palestiniens de la ville d'Al-Quds. La résistance palestinienne a en fait tiré des milliers de roquettes et de missiles sur Israël. En fait, ces missiles d'une haute précision, d'ailleurs, il ne s'agit pas en fait des attaques aveugles, il s'agit en fait des frappes aériennes d'une haute précision. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous en êtes rendu compte que des cibles stratégiques et importantes à l'intérieur du régime israélien, dont l'oléoduc, dont l'aéroport international de Ben-Gourion, dont l'aéroport stratégique de Ramon, des sites militaires, des bases de l'armée israélienne avait été en fait visée par des missiles précis de la résistance palestinienne. La résistance palestinienne qui a en fait dévoilé il y a quelques jours un missile d'une portée de 250 km qui a visé l'aéroport de Ramon, et cette même résistance a dévoilé un autre missile d'une puissante très très importante. Le missile baptisé Haj Rasem est un missile d'une portée très très importante et également d'une ogive, si vous voulez, détachable et à combustible solide. Comme je viens de vous le dire, la donne est changée désormais totalement en faveur de la résistance palestinienne. Et du côté du régime israélien, en fait, ce régime ne cesse de bombarder les populations civiles, les zones résidentielles dans la bande de Gaza. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien spécialiste belge des questions internationales, M. Luc Michel. M. Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Vous savez que j'ai commencé il y a bientôt un demi-siècle mon parcours politique par le soutien à la Palestine. Je suis toujours resté un militant pro-palestinien. C'est un devoir d'être là aujourd'hui.
Merci beaucoup, Luc Michel. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Luc Michel, est un analyste politique et spécialiste des questions internationales que vous connaissez d'ailleurs très très bien. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Nerostine, bonjour à vos auditeurs et une grande salutation à M. Luc Michel, qui est en effet un grand militant pro-palestinien.
Et M. Dortiguier, puisque, comme vous le dites, en fait, Luc Michel, c'est un grand militant palestinien, si vous nous le permettez, on va commencer aujourd'hui notre émission avec Luc Michel. Luc Michel, je viens de lancer le sujet, ce qui se passe actuellement entre la bande de Gaza, entre la résistance palestinienne. Je dis la bande de Gaza, mais je précise entre la bande de Gaza, la Cisjordanie, les habitants palestiniens de la ville d'Al-Quds, c'est également les Palestiniens qui vivent dans d'autres villes israéliennes que ce dernier jour, en fait, eux aussi, ils se sont soulevés, si vous voulez, contre le régime israélien. Je viens de lancer le sujet. Comment vous l'évaluez, Luc Michel, ce qui se passe actuellement entre la résistance palestinienne d'un côté et le régime israélien de l'autre côté?
Bonjour tout d'abord au professeur Dortiguier. Il faut constater quelque chose, c'est que l'agression israélienne, elle dure évidemment depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, la guerre a changé de dimension. Il y a aujourd'hui une riposte palestinienne qui est de même nature que la riposte israélienne, mais ça ne doit pas s'empêcher de constater l'agression. Lorsqu'on écoute les médias français en particulier, et tous les médias occidentaux, on a un peu tendance à mettre un signe égal entre les Israéliens et les Palestiniens. Et on a l'air de présenter ça comme des fanatiques turbulents qui sont en train de mettre à feu et à sang le Proche-Orient. Et on perd évidemment la dimension qui n'a pas en parle, ce qui est une hypothèse étouffée. Et donc, une fantastique population qui en cours depuis 1948 dans des camps de réfugiés. Secondement, ce qu'il faut constater, c'est que si la guerre militaire a changé de dimension, la guerre médiatique, elle n'a pas changé du tout. Vous avez vu qu'il y a eu de nombreuses manifestations pro-palestiniennes qui ont été interdites dans de nombreux pays occidentaux et que Netanyahou a particulièrement remercié de nombreux leaders européens, notamment Mme Merkel, le chancelier autrichien, etc. On a l'impression, en écoutant ces gens, qu'Israël, ils le disent d'ailleurs sous les radios de télévision, comme PFLTV, il y a une organisation qualifiée de terroriste du Hamas, qui serait détachée du peuple palestinien et qui pratiquerait une guerre d'agression contre les Israéliens. C'est complètement dissimulé la nature de cette guerre coloniale, qui est la guerre d'un peuple qui n'a jamais abdiqué depuis 1948. Il faut souligner ceci. Lorsque j'écoutais hier les médias français, j'étais scandalisé, y compris à propos de la répression sauvage du cortège pro-palestinien de Paris, où on a déployé une police équipée, on appelle ça des robots en France, où on a déployé des canons à eau, où on a gazé et matraqué les manifestants, qui étaient des manifestants en particulier. Le prétexte a été de soi-disant couple
Monsieur Torsillier, est-ce que vous estimez, tout comme Luc Michel, que en fait cette fois-ci la guerre a changé de dimension, parce que là Luc Michel était en train d'interpréter cette riposte du côté palestinien et il estime que voilà, la guerre cette fois a changé de dimension. Autrement dit, en fait, s'agissant de la résistance palestinienne, la stratégie semble être désormais la suivante: répondre, si vous voulez, riposter du tac au tac, monsieur Dortiguev, missile par missile, frappe par frappe, opération par opération.
Oui, en effet, on peut dire que c'est la nouvelle qualité de la résistance palestinienne. Cette résistance est continue, comme l'a dit monsieur Michel. C'est une résistance qui est antérieure même à la création de l'entité sioniste, mais qui s'est fortifiée, bien sûr, après l'installation de cet État. Je rappelle d'ailleurs à nos jeunes auditeurs que cet État-là a été soutenu par l'opinion publique et par les politiques européennes, car elle s'est présentée avec des gens qui appartenaient, je parle de M. Ben-Gourion, de Mme Golda Meir en 1948, à la seconde internationale ouvrière. C'est-à-dire, c'était des gens qui appartenaient, disons, à la même structure que les partis sociaux-démocrates en Europe. Et ce n'est que par la suite que des gens comme les gens du Likoud et autres sont apparus et ont ajouté au premier soutien donné par la gauche européenne un deuxième soutien aujourd'hui très important qui vient d'une sorte de nationalisme ou d'extrême droite européenne, vous voyez, qui est pénétré par ces milieux sionistes et, disons, s'ajoute au premier soutien. C'est pour ça que les réactions, par exemple, les manifestations que nous avons à Paris, à Bruxelles et dans l'Allemagne, sont présentées comme des manifestations de gens de gauche, d'extrême gauche, des manifestations extrémistes, voyez-vous. On parle d'islamo-gauchiste aujourd'hui. Tout ceci, c'est une manière, bien sûr, d'obscurcir la réalité qui est toute simple. Nous avons affaire, M. Michel, à une guerre coloniale, qui a commencé avant la formation de l'entité sioniste en 1948, qui était déjà présente entre les deux guerres, voyez, les deux guerres mondiales. Et Léon Blum, d'ailleurs, chez nous, le chef du Front Populaire, soutenait le mouvement sioniste dans ses conférences à Genève et autres. Voyez-vous, tout ceci montre que la résistance palestinienne, si elle a en effet augmenté de puissance dans cette confrontation qui a vu, vous savez, l'explosion du siège de la Société de presse et autres, si elle a manqué, en fait, politiquement, nous avons affaire, humainement, politiquement, à la même réalité, la réalité de l'oppression silencieuse d'un peuple dont on ne parle pas dans la presse. Et je dois dire que de ce côté-là, il y a eu une déficience politique de la part des autorités palestiniennes. Et je sais que, quel que soit ce qu'on peut penser du Hamas, il y a peut-être des provocateurs dedans. Je le dis ouvertement parce que ça a été dit. Il est certain que le mouvement lui-même, technique de résistance palestinienne, a franchi un pas. Je crois que l'oppression israélienne également, disons, voudra continuer, persévérer dans cette voie, dans la voie de la répression. Mais je crois que, vous savez, je prends l'exemple de notre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian. Le Drian a demandé une sorte de, comment dirais-je, l'intervention de l'Égypte, par exemple, voyez. Je crois qu'il y a, pour servir d'intermédiaire, je crois qu'il y a en effet, de la part de ceux qui soutiennent Israël, de ceux qui sont obligés, peu importe la formule, il y a une inquiétude devant cette nouvelle résistance palestinienne, surtout qu'on pensait que psychologiquement, moralement, les Palestiniens étaient brisés. Vous savez, il existe, je terminerai là-dessus, comme en physiologie on le voit, vous avez des seuils de résistance. Si vous arrivez à supporter un certain seuil, à ce moment-là, vous accomplissez des actions qu'en temps normal vous n'auriez pas commises et vous n'auriez pas supportées, disons. Je crois que c'est ce qui arrive au peuple palestinien qui a été, disons, forgé par la répression. Je prends cette image-là. Et les Israéliens ont fabriqué, si je puis dire, par la politique, une opposition qui ne s'éteindra pas. Quelle que soit d'ailleurs la lâcheté des dirigeants occidentaux, leur soumission, etc., M. Michel fait très bien de rappeler ce qu'est la position de l'Allemagne aujourd'hui et de l'Autriche, par exemple. Mais je dois dire que dans la rue, dans l'opinion, surtout en Allemagne, en Autriche et dans les pays du Nord, il y a une plus grande résistance, voyez-vous, qu'autrefois. Une plus grande connaissance, disons, de la nature de l'oppression israélienne. En France, elle existe, mais malheureusement, elle est, disons, bien diminuée par rapport, disons, à ce qu'elle devrait être.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Dortiguet lorsqu'il dit que, voilà, ce qu'on appelle, en fait, le pouvoir de la rue, c'est-à-dire les populations qui vient, en fait, le pouvoir qui émane des populations et des peuples, que ce soit en Europe ou ailleurs, et en faveur du peuple palestinien dans l'état actuel des choses.
Je ne sais pas plus, mais les deux fois, on est bien après qu'il y a moins de gens, il y a 40 ans, il y avait des gens qui ont fait ça,
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguet, en fait, toujours sur le plan militaire, également sur le plan, si vous voulez, politique et économique, le régime israélien se trouve dans un embarras. En fait, des millions d'Israéliens vivent actuellement dans un état de panique. Ils sont en fait obligés de vivre dans des abris et des jours-ci, en raison, si vous voulez, de cette riposte cuisante de la résistance palestinienne. L'économie israélienne est paralysée. Les aéroports du régime sont fermés. Tous les vols en direction et en depuis également le régime israélien sont suspendus. Autrement dit, en fait, le régime se trouve dans un état de panique. Monsieur Dortiguet, pour interpréter, si vous voulez, un tel état de choses, peut-on dire que c'est la résistance palestinienne qui est en train de, si vous voulez, qui est en mesure, pour être précis, d'imposer les règles du jeu, s'agissant de cette guerre, au régime israélien, également d'imposer l'équation de guerre, M. Dortiguet, désormais?
Oui, en effet, M. Novostin, je crois que votre formule est exacte. Les Palestiniens, disons, sont passés de l'état de victime, non pas passive, mais disons, plus passive qu'active, comme ils étaient jusqu'à présent, à, disons, un facteur, ils sont devenus une cause d'inquiétude sérieuse et constante pour l'administration sioniste. Et je crois que celle-ci n'a que le choix d'une fuite en avant. Je ne vois pas d'autre meilleure expression, c'est-à-dire qu'elle va augmenter sa répression, elle va tâcher de mobiliser, non pas l'opinion publique extérieure, mais les États extérieurs, pour que ceux-ci, en dernier lieu, viennent lui apporter de l'aide, je dirais même une aide matérielle, voyez-vous, une aide militaire. Et je pense que ceci peut aller très loin. Mais les Israéliens ne se rendent pas compte, tout au moins je veux dire, ses dirigeants, ses responsables, que ce faisant, ils ont le temps contre eux. Ils affaiblissent l'énergie de leur peuple, ils le désorientent. Et vous savez, j'avais un ami qui était un militant sioniste, avec qui j'étais parti en Chine, avec tout un groupe de gens de la Sorbonne. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que le sionisme, car il était lui-même membre des scouts sionistes. Et c'est un homme qui a une très belle situation aujourd'hui dans l'économie. Et il m'avait répondu, un sioniste, c'est quelqu'un qui en envoie un autre en Palestine. Voyez-vous? Et ça, de ce côté-là, l'État d'Israël sera soutenu par ceux qui le financent, ceux qui l'encouragent, jusqu'au moment où la situation deviendra trop périlleuse.
De qui parlez-vous exactement, M. Dortiguet? C'est ceux qui financent et alimentent, si vous voulez, le régime israélien.
Ceux qui le financent et l'alimentent sont des gens qui ne sont pas en Israël, voyez-vous, qui appartiennent bien sûr à qui veulent appartenir à la même communauté, mais ils ne vont en Israël que pour pouvoir faire un aller-retour. Ne confondent pas leur vie, patriotiquement, si je puis dire, avec la patrie israélienne. Ce sont ces gens-là qui le soutiennent, comme aux États-Unis par exemple, lorsqu'ils donnent de l'argent, reçoivent des facilités de l'État, par exemple, des facilités d'impôts, etc. Ce sont ces gens-là qui, attention, non pas depuis 1948, mais déjà dans les colonies anciennes, entre les deux guerres, envoyaient du matériel agricole, etc., tout ça, tout ceci était, disons, des bétons faits par, en particulier, les États-Unis, mais vous aviez également d'autres pays, et vous aviez aussi, surtout, j'aime le dire quelquefois, les Russes envoyaient des hommes en Israël. Évidemment, il y avait, disons, une sorte de conjonction russo-soviéto-américaine de ce point de vue, mais c'est l'Amérique qui était quand même le principal fournisseur. Je crois que si ces gens-là ne voient que leur intérêt, et je pense que l'entité sioniste actuelle peut être menacée par ceux qu'elle a dépouillés, qu'elle a spoliés, à savoir les Palestiniens, mais elle peut également être menacée si elle va trop loin, si elle est, disons, trop aveugle dans la répression, elle peut être, disons, tempérée dans ses mouvements par ceux qui n'investissent là-bas, en Israël, que pour gagner de l'argent. Et non, absolument, je peux vous le dire, j'en connais beaucoup depuis ma jeunesse, n'ont aucun sentiment patriotique. Je veux dire, patriotique israélien, se considèrent comme des Américains, ou comme des Français, ou comme des Allemands, voyez-vous. Ils ont une gloire, disons, de parler d'Israël, mais ne veulent pas identifier leur destin à celui d'Israël. Ça, je crois que c'est un sujet de réflexion pour les hommes politiques israéliens, voyez-vous, très sérieux. Et je crois que la résistance palestinienne aujourd'hui, ou l'offensive de certains types, a permis à ces gens sensés en Israël, finalement, de comprendre cette situation. Voyez-vous, n'oublions jamais qu'Israël ne vit pas de ses propres forces, mais vit de ceux qui le soutiennent. Voilà. Elle vit de l'extérieur et non pas de l'intérieur.
Monsieur Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Luc Michel, géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Pays des merveilles. Merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
Comme nous vous l'avons promis la semaine dernière, nous voulons vous emmener en promenade dans l'une des avenues des plus célèbres d'Ispahan, Chaharbagh. Construite à l'époque des Safavides pour être un lieu de promenade, l'avenue Chaharbagh était à cette époque l'une des plus belles avenues du monde. Comme son nom indique, Chaharbagh signifie quatre jardins. Des jardins célèbres entourent en effet cette avenue. Elle commence de la porte Daulat, face à l'actuel hôtel de ville, s'étendant jusqu'au pied du mont Safa, porte Shiraz. Le pont Al-Lahverdihan, où 33 sources partagent en deux l'avenue Chaharbagh. Lors de sa visite à Ispahan en 1616, le célèbre voyageur italien Pietro della Valle ne s'est lassé d'exprimer son admiration devant l'avenue Chaharbagh, louant sa majesté par rapport aux avenues célèbres de l'époque en Italie, affirmant qu'aucune avenue des villes célèbres de l'Italie n'avait même à la cheville de Chaharbagh. Pour sa part, le voyageur français Jardin, qui a vécu quelque temps à Ispahan à l'époque des Safavides, a ainsi écrit dans son récit de voyage au sujet de cette avenue. Cette avenue est le plus beau passage que j'ai vu ou entendu jusqu'à présent. Avec le temps, des bâtiments d'habitation ou de commerce ont été construits sur le terrain des jardins autour de l'avenue. Dans le nord de l'avenue, une avenue a été construite comme Chaharbagh. Ces deux avenues font ensemble 6 km. Ces larges avenues sous la voûte verte des ormes et des platanes offrent aux passants un espace frais et agréable. Pour les touristes qui visitent la ville d'Ispahan, l'avenue Chaharbagh, ses divers et beaux magasins et ses sites historiques comptent parmi les plus belles avenues du monde. En marge de cette avenue, un monument majestueux avec son don turquoise et ses hauts minarets, connus sous les noms de Madrasé Chaharbagh, Madrasé Soltani et Madrasé Madaresha, mère du chat, retiennent l'attention des touristes. Rares sont les voyageurs ou les touristes qui se rendent à Ispahan sans aller visiter cette madrasé école célèbre de Chaharbagh. La construction de madrasé Chaharbagh a duré 10 ans. À l'époque de Shah Sultan Hussein, dernier roi des Safavides. Elle fait partie du complexe Soltani qui comprenait un long bazar et un caravansérail. Et étant donné que la mère du roi avait consacré les revenus de ce bazar et de ce caravansérail aux frais de l'école théologique Çağırmak, l'école ou madrassé a été appelée du nom de la mère du roi. D'une superficie d'environ 8500 mètres, la madrassé Çağırmak dispose de 4 ivans. La façade extérieure du monument est couverte de belles plâtries et mosaïques. Sur l'inscription du frontispice, on remarque la date de la mise sur pied de l'école, écrite d'une très belle calligraphie en écriture nastalir sur une mosaïque turquoise. On peut dire qu'aucun monument ou œuvre historique à Isparan n'attire autant l'attention des visiteurs et touristes étrangers, à tel point que les visiteurs la décrivent par des termes tels que fascinante, charmante et agréable. L'école comprend 4 ivans, une pièce octogonale, une entrée, une cour intérieure, un dôme, des minarets et des pièces. Les ivans se trouvent aux 4 coins de la cour et chacune abrite des pièces sur 2 étages où les étudiants en théologie vivent ou étudient. L'école compte au total 150 pièces. Un ruisseau passe au milieu de la cour, des 2 côtés duquel on remarque des rangées de platanes et de cyprès. À l'intérieur de l'école, il y a un minbar, entièrement en marbre, œuvre magnifique de l'art de la sculpture de l'époque des Safavides. Tout près du minbar, on constate un beau mihrab. L'école Çağırmak, qui avait été mise sur pied pour les séminaristes il y a 4 siècles, est appelée, après la révolution islamique, l'école théologique de l'imam Sadiq. Consacrée à l'enseignement des étudiants en théologie, constituant l'une des plus grandes hausas de la ville d'Ispahan. À côté de l'école se trouve la bibliothèque de l'imam Jafar Sadr et le petit bazar ancien de la ville qui est très séduisant et précieux compte tenu de son architecture extraordinaire, décuplant la grandeur et la majesté de l'école Çağırmak. La mosquée Jamé d'Ispahan a été construite dans le grand quartier d'Ardasht, à proximité de l'une des places célèbres appelées Sabz-e-Meydan, construite en 130 vies de l'Hégire. Les témoignages révèlent que le monument de la mosquée était très simple, d'une architecture très dépouillée, rappelant celle des mosquées du début de l'islam. Elle a connu des changements. Diverses parties y ont été ajoutées, chacune montrant le style architectural d'une époque particulière. Ainsi, la mosquée réunit divers styles architecturaux de diverses périodes. Au 1er siècle, où l'Iran se convertissait peu à peu à l'islam, les Iraniens ont pensé à bâtir des mosquées majestueuses. Avec leur riche expérience et leurs antécédents, dans la construction de monuments et édifices somptueux, de leur style architectural authentique, les Iraniens ont construit de très belles mosquées qui sont restées célèbres jusqu'à nos jours. En tant que manifestation de l'évolution de l'architecture iranienne, durant 14 siècles, la mosquée Jamé a été témoin de plusieurs événements doux et amers. Il n'y a plus de traces aujourd'hui de la première mosquée construite en 130 vies de l'Hégire. Elle a été remplacée par les bâtiments actuels, mis sur pied pour la plupart au 5e siècle et au début du 8e, du 11e et début du 12e siècle. Le bâtiment actuel abrite surtout des œuvres datant du 5e et du 6e siècle, avec des couvertures décoratives en marbre et en céramique. Des œuvres des artistes des époques d'Elamite, Seljoukite, Gourhani, Turkmène, Safavide et Rajar se trouvent dans cette mosquée qui a d'ailleurs subi de vastes réparations qui se poursuivent toujours. La mosquée Jamé dispose de 4 ivans, se situant dans les 4 orientations, nord, sud, est et ouest de la mosquée. Derrière ces ivans, on remarque d'autres bâtiments. N'oublions pas que le style de 4 ivans dans la construction des mosquées est un style purement iranien, un style qui a pris forme au début du XIIe siècle. la mosquée à 8 entrées, dont la porte d'entrée s'ouvrant sur le sud-est du monument. Le fronton a été décoré à l'époque des Rajars. L'esplanade de la mosquée est de 70 mètres de long et de 60 mètres de large. Quatre ivans de quatre noms différents se situent sur les quatre côtés de l'esplanade. Une petite mosquée se trouve dans la partie septentrionale de l'Ivan occidental, s'appelant la mosquée El-Jaïto, un des rois de la dynastie Ilkhanienne. Le mihrab de toute splendeur de cette mosquée, une des plus importantes parties décoratives du bâtiment, figure parmi les plus grands chefs-d'œuvre artistiques où notamment l'art de la plâtrie s'exerce dans toute sa beauté. La mosquée Jamé est sans aucun doute un musée de l'architecture du XIVe siècle, appartenant à l'histoire de l'Iran de l'époque islamique. Pour décrire la beauté et le caractère unique de cette mosquée, on peut citer tout simplement l'avis de l'iranologue professeur Arthur Ufam Pop qui écrit « Ce monument, avec sa majesté et sa grandeur mystérieuse, constitue l'une des plus belles œuvres de l'architecture mondiale. » La promenade d'aujourd'hui arrive ici à son terme. Merci d'avoir été avec nous. Soyez aussi nombreux la semaine prochaine pour nous accompagner dans une autre promenade dans cette belle ville d'Ispahan. D'ici là, au revoir et bonne semaine. Thank you.